30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5e édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront... Du 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la 5e édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Dear Roof, The Sadies, À la Claire Ensemble, Fred Fortin, Daniel Romano, Joseph Edgar, So Cold, Folaxoid, Buzz Owls, Matt Vezio, Bon Enfant, Jonathan Person, Fudge, Mélanie Venditti, Birds of Paradise et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernetour.ca. Une présentation de la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales
et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste
et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la Claire Ensemble sur les ondes de Choc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. En fait, on me dit que c'est la 213, mais je ne le croirai pas tant que je ne l'ai pas vu.
C'est 211.
C'est 211, bon, vous voyez, je fais bien de ne pas croire ce que je ne vois pas. Et je fais bien aussi d'être en compagnie de Megan. Merci beaucoup d'être là, parce que c'était des fois, là. 211!
Ouais, ben, en tout cas, la dernière qu'on avait faite, c'était 210. Okay. Je sais pas si y en a d'autres qui ont apparu entre les deux.
Ah mais... non, c'est peut-être 212, parce que c'est, ouais, je pense que j'en ai activé une entre-temps, un truc que j'ai fait au International Association for Studies of Popular Music. Ooh. Je sais pas si je l'ai activé, mais c'est deux entrevues, une sur Muse, puis une sur les fandoms en musique féminin. C'est vraiment, c'était super, super intéressant. J'étais vraiment content de... De mettre ça en autre, je pense que je ne l'ai juste pas rendu disponible encore.
Ah, mais c'est pas grave. 212, alors.
Shame on me.
Shame on you.
Shame on me so bad. Donc, c'est la première live de 2020.
Ben oui.
Mon nom est Jean-Michel Bertium. Je suis vraiment content de vous voir, de vous entendre, de tout ça. Moi, je suis vraiment content.
Ben moi aussi. Là, c'est 2020. On commence l'année un peu en retard, mais ça va.
Ouais.
Ben oui, là.
Off. Je sais pas. Correct.
Mais on prend ça relax, tu sais, on a un peu de self-care.
Ah, pas pire! Ah, ok, bon, ok, non, t'es, c'est très fort.
Ben oui, ça, on prend soin de nous, on prend du temps pour prendre soin de nous.
Je vais expliquer, là, parce que là, tout le monde trouve ça étrange de nous entendre parler de cette manière-là. L'affaire, c'est que...
ils sont comme... ils sont mais, weird, eux autres.
Ben, surtout que t'es comme... Pour les caméras, t'es un peu très dans l'obscurité, fait que tu pourrais essentiellement avoir l'air d'être comme dans un bain suédois ou un truc comme ça.
C'est
là.
Mais c'est... en fait, c'est pour reprendre le mot, puis... que mon amie Catherine Côté, qui vient souvent à l'émission, utilise régulièrement. C'est très hugue.
Oui.
Hugue, l'art danois du bien-être. Donc, on met des couches de linge, on met des petites lumières, des petites chandelles pour se sentir bien en plein milieu de l'hiver, parce qu'en ce moment, on est vraiment en plein milieu de l'hiver, le moment le plus dark.
Ouais.
Puis, on sait, quand on est hugue, ben, ça peut nous faire sentir mieux. Puis là, je suis très hugue avec mon manteau d'hiver sur le dos. Je sais pas que je m'en vais bientôt, mais j'ai un peu froid.
Oui. Ben, effectivement, il fait quand même froid. Mais c'était, en fait, c'était un préambule plus pour comment ça va être weird cette session-ci, parce que tu es super occupé, tu as plein de nouveaux trucs, tu as les rescapés du temps.
Les rescapés du temps, Radio-Rama, sur les ondes de CISM. C'est des voyages dans le temps, mais aussi des aventures de bureau.
OK.
Fait que c'est basically The Office rencontre dans une galaxie près de chez vous, si on veut.
Quel beau pitch!
Ouais.
Shit!
C'est aussi cave que ça.
Ben, c'est déjà... Moi, je m'oppose à l'expression que c'est cave.
D'une bonne manière. C'est pas péjoratif du tout, là. Ah. C'est des jokes très niaiseuses. On a beaucoup de plaisir.
Ça fait partie de votre hugue.
Ça fait partie du hugue. Écrire des scénarios. Le mot hugue est plugué à peu près 4 fois dans les épisodes à date.
Ça fait plus partie de l'esthétique du care dans ce cas-ci.
Ouais, peut-être.
Ouais, OK. Bon, on va revenir à ça. Mais bon, bref, ce que
on n'est pas hors sujet en ce moment, partout.
Non, c'est ça qui est étrange. C'est que parce que tu t'entreprends ça, ben, l'émission tombe un peu sous mon égide. Puis, ben, moi, l'émission, c'est toujours comme, hey, je me demande s'il y a quelque chose là. Puis, ben, aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'entête, c'est Agretsuko, qui est un manga qui est co-fait par Netflix. Mais fondamentalement, je veux quand même le dire immédiatement, c'est pas de ça qu'on va parler pendant une heure, c'est juste que j'ai écouté quelques épisodes de ça, puis je me disais, ça doit vouloir dire quelque chose par rapport à où on est en société. Et évidemment, ben, tout ça, vous l'aurez deviné, c'est par rapport à l'esthétique du care. Et l'esthétique du kawaii. L'émission, comme vous avez vu, je l'ai intitulée « La colère kawaii ». Parce que c'est un peu à l'image de qu'est-ce qui nous est présenté dans Agretsuko. C'est ce contraste-là qui existe entre des figures extrêmement adorables, parfois totalement déchaînées dans un univers qui est tiré directement de l'imaginaire du black metal. Et en écoutant ça, ben c'est ça. J'étais comme, il y a définitivement quelque chose. On est dans un autre... évidemment, quand on est arrivé en 2020, on est tombé aussi dans une autre époque, là. C'est comme, oui. Ça a commencé avec la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu...
La pandémie de coronavirus. Puis
l'Australie, et ensuite...
En feu.
C'est devenu très concret très rapidement.
Ça fait juste comme 3-4 semaines, là. Fait ouais. C'est un peu rough.
Donc, j'étais très curieux de cette espèce de transition-là et des contrastes, en fait. De toute la célébration qui est autour du 1er janvier. Comme,
hey. New year, new me.
Oui, puis comme, oh shit, non.
On fait table rase, on commence à nouveau, ça va bien aller. Boom, troisième guerre mondiale.
Ben, effectivement, ça fait table rase, peut-être pas dans la direction que tout le monde voulait.
Qu'on espérait, en tout
exactement.
Cas.
Donc, j'étais pas du tout familier avec Agretsuko, mais... ça m'a paru comme une métaphore assez évidente de ce qui est en train de se passer.
En tout cas, ça t'a parlé.
Ça m'a parlé, puis j'étais comme, explorons, puis comme t'es la meilleure personne avec qui explorer ces idées-là, ben merci d'être là, parce que tu viens alimenter une folie.
Merci d'avoir suggéré ce thème-là. C'est ça, on en parlait un peu avant d'entrer en onde, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Alors, c'est comme... mais c'est ça, surtout... Tout le sujet du contraste entre le kawaii, parce que j'ai écouté 2 épisodes de Agretsuko hier, je suis pas du tout spécialiste, mais de prime abord, tu sais, on rentre là-dedans, puis c'est un univers peuplé de petits animaux, cute, dessins très minimalistes, très très de base, mais très kawaii en même temps.
Ben oui, c'est ça, là. C'est... une leçon même du kawaii. Là. Le personnage principal est un panda roux avec des gros yeux.
Il y a une amie, c'est un fennec fox, puis il y a une biche, puis un cochon, puis un hippopotame. Puis c'est comme... On a tous les animaux de l'album jeunesse, là, si on veut. Là.
Oui, puis tout... Ouais. Évidemment, comme vous pouvez vous les imaginer, là, c'est vraiment dans l'archétype japonais de le dessin le plus Hello Kitty possible. On va s'entendre.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, là, on découvre très rapidement que elle vit le personnage principal dont j'ai complètement oublié le nom.
Retsuko,
ouais. Merci.
C'est Agretsuko.
Oui, c'est ça.
Le personnage s'appelle Retsuko.
Retsuko, elle vit dans un monde un peu trop familier où la société capitaliste et le sexisme et tout ça rendent sa vie complètement insupportable. Fait que son seul exutoire, c'est d'aller chanter du métal au karaoké le soir.
Exactement. Merci. Tu t'es rendu directement au point. Puis c'est là où ça devient comme une affaire de...
Oh.
Ah, OK. Ben là, on est en train de dire quelque chose parce que le poids de la société contemporaine dans laquelle Retsuko existe et qui est la nôtre aussi, conséquemment, malgré qu'on n'est pas des personnes de bureau. Là.
On n'est pas des personnes de bureau, mais on peut s'identifier à certaines aventures qu'elle peut vivre.
Oui, absolument. Plus toi que moi.
Ben, ouais, pour la moitié, mettons.
Ouais, j'avoue. Ouais.
Non, non, la moitié sexisme, là, ouais.
Ouais. Même, là, j'ai quand même eu des moments. Puis c'est ça, puis ça devient que Retsuko, le soir, va se paye un espèce de
chambre. Les karaokés japonais dans la chambre privée et tout. Là,
ouais. Oui, mais que moi, je pense que c'est la première fois que je voyais quelqu'un y aller tout seul. Il y avait quelque chose de très intriguant par rapport à ça, qu'elle se paye cette chambre-là seule pour juste sortir le méchant sous la forme de the blackest metal you imagine. Et ça, c'est ça. Ben, comme je disais, il y a comme plein de questions qui ont émergé par rapport à ça sur le fait que, bon, on est dans un peut-être un pivot par rapport à la culture kawaii. Bon, rapidement, pour les gens qui n'ont pas nécessairement des grands référents par rapport au kawaii, c'est tout ce qui est le mouvement du cute. En fait, kawaii, ça se traduit assez librement comme lovable, comme aimable, cute, adorable. C'est tout ce champ-là. Mm-hmm. Les gros yeux.
C'est très codifié dans le dessin japonais. Là, aussi,
exactement. Là. C'est en fait, ça veut... Le kawaii provient, les caractères proviennent de Kao Hayushi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apprendre que c'est, ça se traduit librement par le visage, ton visage qui brille.
Oh.
Ouais, one's face aglow, donc cette espèce de
les yeux qui brillent.
Ouais, oui, que t'as super bien, c'est ça, tu viens le mimer, tu sais, l'espèce de petit iris qui oscille un peu lumineux. Je ne savais pas non plus, mais on retrouve le terme kawaii. En fait, il a ses origines au 11e siècle, dans un roman qui s'appelle « The Tale of Genji », écrit par une femme, Lady Murasaki. Puis, dans les années 70, ça a été repopularisé comme style calligraphique. C'était vraiment dans l'utilisation d'une calligraphie qui évoquait quelque chose d'adorable. Donc, le kawaii était beaucoup plus dans la façon que les gens écrivaient. Hmm. Mais là, depuis les années... Mais en fait... Depuis la capitalisation, depuis la modernisation du Japon, ça a pris une envolée extrêmement exponentielle et la dimension kawaii de cette culture-là est considérable. À un point tel qu'elle déborde un peu sur nous, occidentaux, on est rendu que...
Ah oui, c'est ça.
On a quelques personnes qui, je dirais peut-être, représentent une avant-garde du kawaii qui ont décidé de totalement s'immerger dans cette culture-là. Ici en Amérique du Nord, mais ce n'est pas une pratique si courante que ça. Sauf que je me rends compte que c'est une assez bonne métaphore pour parler du climat déshumanisant.
Mm-hmm. Mais c'est intéressant parce que là, ça m'a fait penser tout ce qui a un rapport aussi avec, ce soit la culture kawaii, la culture du animé japonais, mais tout ce qui a un rapport avec le animé mix.
Okay.
Donc c'est un peu si on est équivalent ici, ça serait un peu du transmédia, disons-le, mais aussi avec une grosse part de produits dérivés. Donc au Japon, c'est très systématique de quand t'as une série télé, ça prend des produits dérivés et à l'inverse aussi des poupées comme Hello Kitty par exemple ont eu leur série animée, leur film ou tout ça. Donc il y a vraiment cette culture-là culturelle qui est associé au kawaii, mais qui est répandu, par exemple. On avait fait l'émission sur Pokémon il y a plusieurs années, on en avait parlé. Là.
Ben oui.
Donc, mais c'est aussi de... Il faut tartiner à peu près tout sur toutes les plateformes, mais aussi, il y a beaucoup, justement, d'objets, des poupées, des jouets qui n'ont pas de récit narratif, qui s'en font accoler juste pour mieux vendre.
Ouais.
Mais on a eu le même exemple ici en Occident avec les séries de jouets dans les années 80, des dessins animés, donc les Transformers, puis un peu tout ça. Ils ont eu leur série animée qui était un peu un parallèle pour vendre plus de jouets. Même, par exemple, les Ninja Turtles, c'était une bande dessinée à la base. Ils ont fait une ligne de jouets, puis après, pour vendre la ligne de jouets, ça allait faire un dessin animé et ainsi de suite. Là.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant parce que le kawaii fonctionne en soi-même. Il est quelque chose qui n'a pas de besoin fondamentalement d'être mis dans un récit.
Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a une exigence systématique de toujours essayer de vendre plus qui est associée aujourd'hui au kawaii depuis près des 50 dernières années au Japon, à tout le moins.
Oui, ben c'est là où c'est super intéressant parce que avec Retsuko, ben Retsuko, le personnage, ma fille, elle avait une tête de Retsuko dans ses affaires. Que pour moi, c'était juste un objet, une babiole qui avait été ramassée. Puis quand elle m'a vu écouter l'émission, elle était comme « Ah, t'écoutes l'émission de son renard, puis là, elle me l'amène. » J'ai tout d'un coup fait la liaison de « Ah, qui? Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui est venu avant.
»
C'est là où il y a eu le brouillement, parce que c'est une image très classique de roues, de
pandoro très, ouais, c'est ça.
Mais là, tout d'un coup, là, je la vois jouer avec, puis je vois sa petite figurine comme chanter du métal dans un karaoké. Fait que oui, il y a vraiment... c'est assez confrontant. Mais ça aussi, je trouve ça... En fait, merci d'avoir expliqué ça, parce que je pense que c'est comme la première posture que je trouve qui est intéressante, c'est cette idée-là que le kawaii a juste besoin d'exister. T'as pas de besoin d'y raconter d'histoire. Mm-hmm. Il existe. Après ça, tu peux...
Ben, il s'apprécie à lui-même, mettons.
Exactement. Puis je... là, OK, bon, on l'a quand même indiqué là, en début d'émission, c'est un chantier. Je suis en train de poser des questions. C'est pas des...
Non, on explore ici. Ça, on n'est vraiment pas des spécialistes de la question.
Non, mais même au-delà, c'est que je veux commencer à questionner par rapport à la symbolique du kyo, parce que là, il y a de plus en plus de personnes qui adoptent ce style de vie-là, qui ont une appréciation pour le kawaii. Puis une des choses... En fait, dans la recherche, je suis tombé sur une affaire qui m'a comme un peu frappé. C'est l'observation que Hello Kitty n'a pas de bouche. Et Hello Kitty, en n'ayant pas de bouche, elle n'a pas de parole, elle n'a pas de subjectivité. Fait que là, y a-tu comme une uniformisation qui se fait dans le kawaii? Si c'est le cas, dans Agretsuko, est-ce que le personnage est pris d'un mal de vivre, de n'être que cute? Et que dans ce mal de vivre-là, il se crée une bouteille de tension en elle qui doit sortir d'une manière de black metal. Ça, c'est mon premier point. Que je me disais, on est-tu en train... Est-ce qu'il y a un mouvement d'uniformisation avec le kawaii? Puis là, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas pour le meilleur ou pour le pire. Mm-hmm. C'est juste
mais il y en a déjà. Il y en a déjà un, parce que c'est un dessin qui est codifié à la base. Fait qu'il y a déjà une uniformisation dans le code, comme dans tous les animés aussi, là, dans tous les mangas. Il y a toujours un code à respecter pour rentrer dans une catégorie ou une autre. Puis le kawaii... Il sort pas aussi de cette catégorisation très stricte là, puis c'est ça, il y a des codes au dessin, dont celui d'avoir des gros yeux qui brillent, ouais, puis toutes ces affaires là,
toutes les codes liés aux émotions,
la grosse tête, le petit corps,
la goutte, les larmes, mm-hmm. Oui.
Fait que tu sais, de prime abord, oui, le personnage est coincé d'être là-dedans. Peut-être. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui est intéressant, je trouvais, avec Agretsuko, c'est tout le message très politique qui vient à travers de...
Oui.
C'est du kawaii, c'est du cute, mais en même temps, le message est très, très explicite. C'est comme, ma vie, c'est de la merde. Ma vie de bureau, c'est de la merde. J'haïs mon boss. Tout le monde est sexiste avec moi, puis je peux rien faire, puis je me sens comme... Tu sais, j'ai pas d'argent, puis je suis obligé d'avoir cette job-là. C'est comme, ça devient dark très rapidement.
Mais ça, cette vie de bureau-là, bon, ça, c'est...
Mais c'est ça, il peut y avoir un parallèle aussi entre le fait que, c'est peut-être qu'elle sent coincée là-dedans autant qu'elle sent coincée dans sa vie.
Oui, exactement.
C'est ça, il y a un va-et-vient entre le fond puis la forme, là, ici, qu'on peut
pointer. Ça se voit dans l'idée de vivre cette vie-là. Bon, là, je trahis un peu mon âge par rapport à qu'est-ce que... C'est comme les grandes influences, mais l'idée d'uniformiser les gens... dans une façon très post-industrielle de dire, ben, vous avez toute la même vie, là, non? Ben, le kawaii est aussi fondamentalement ça. Le kawaii exclut tout ce qui est cute à l'extérieur de ses codes. Le kawaii, comme mm-hmm. tu disais, doit respecter ses propres codes pour être considéré comme cute.
Mm-hmm.
Et tout ce qui est pas respectueux de ces codes-là, ben...
C'est ça, parce que...
Tu dis, non, toi, t'es pas kawaii. C'est
mon,
comme si tu disais,
mon exemple que je t'avais mentionné plus tôt, c'est le bébé Yoda, là, le The Child dans The Mandalorian.
Ouais.
Il est pas kawaii, mais il est cute. Il est vraiment, vraiment cute.
En quoi il est pas kawaii?
Mais il est pas kawaii au sens propre de kawaii.
Je ne sais pas.
Ça prendrait d'autres types de codes, parce que c'est comme il n'exprime pas ses émotions avec une petite goutte sur le bord de sa tête.
Ouais, ouais. Oui, mais donc, ça veut dire que le kawaii, ça serait essentiellement juste un dessin. Parce qu'il y a quand même les gros yeux, il y a quand même le petit corps, il y a la grosse tête.
Oui, c'est ça, mais en même temps, il n'y a personne qui a dit « Ah, le bébé Yoda, il est kawaii ».
Non, ça n'a pas été fait, ça.
C'est pas très... Ben, tu sais, il est juste vraiment, vraiment cute.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a ça aussi, il y a comme aussi... Il y a une distinction culturelle, évidemment, parce que c'est une création occidentale, là, comme...
Oui, mais, mais tu vois, ça, c'est super. C'est, tu dis ça, tu sais, je suis comme... Mais y a-tu un spectre du kawaii? Tu sais, y a-tu comme un spectrum, excuse-moi, je vais plutôt dire, pas un spectre comme dans le... Comme
un fantôme,
dis. Oui, oui, pas le spectre de Marx. Non, mais comme, est-ce que y a... Tu sais, parce que, bon, on va le prendre là, sur une échelle... Bébé, ouais, the creature, comment qu'il l'appelle?
The child,
right? Oh, whatever. Je pars de deux. The creature, the child, est plus kawaii que Babu Frick.
Oui.
Mais les deux ont des caractéristiques ouais. kawaii communes.
Mais Babu est moins cute que the child.
Ça, c'est. Il est plus un. C'est juste toi, là.
Il est juste un comic relief, tu sais, parce que the child, il parle pas, c'est un enfant. C'est vrai. Il n'a pas accès au langage, c'est un bébé. Il fait juste comme... Puis c'est ça, là.
Il fait juste quoi?
Il fait des bruits de bébé.
Ah, OK.
C'est quand tu l'écoutes avec des sous-titres, là, la série, c'est comme un sous-titre sur deux, c'est « The Child Coos ».
Wow!
C'est juste ça.
Ouais, mais c'est ça. Ouais,
c'est ça.
Parce que
alors que Babu, c'est un adulte. C'est, il peut pas être cute comme un enfant parce que c'est un adulte qui a accès au langage.
Il a accès au langage, il me semble qu'il dit juste comme...
Non, il se présente un moment donné aussi.
Ah ouais?
Il dit « Yeah, bon... » Parce que quand il demande genre « Ah, vous êtes qui? » Après qu'il se soit fait enlever la mémoire, là...
C'est 3PO.
Il dit « Ah, vous êtes qui? » Puis là, il fait comme « Non, mais mon nom, c'est Babu Frick. » Puis...
Tu vois, c'est drôle, dans ma tête, il y a la voix du gremlin super éduqué dans Gremlins 2. Parce que j'ai complètement oublié ça. Bonjour. Ouais, il m'arrive parfois de lire des romans de Susan Sontag. Wow, OK.
Oui, mais il a accès au langage, mais si mettons l'anglais, entre guillemets, là, si on veut. Là. Le common de... Le common de Star Wars, pour utiliser un mot de Donjons et Dragons, c'est pas sa première langue, fait que c'est sûr qu'il est pas fluide, mais il a sa langue à lui aussi.
OK, OK.
Puis il parle avec les autres personnages dans sa langue à lui, parce que ça a juste l'air d'un babouillage, là, mais... c'est comme une typologie du cute, là.
Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'un spectrum.
Uh-huh.
C'est qu'il y a... Puis tu vas me voir parce que je vais aller chercher d'un autre côté. Mais c'était important pour moi dans l'émission de parler de cette ligne-là. T'sais, ultimo kawaii, si on peut dire, là, t'sais, comme le kawaii par excellence, le kawaii prime, puis tout, ça serait Hello Kitty. Puis là, t'as des déclinaisons. Jusqu'à... honnêtement, là, je veux dire, parce que je veux pousser dans l'espèce de réalisme qui reste dans cet environnement-là, je me rendrais jusqu'à l'opposé, qui est BoJack Horseman.
OK.
On va revenir à ça. Parce que je veux quand même parler de ces contrastes-là. Je veux d'abord et avant tout, bon, on en a très bien parlé, du contraste qui existe entre qu'est-ce qu'il y a de cute puis l'univers peut-être plus personnel, émotif, incontrôlé de Retsuko, le métal. Cette semaine, ou du moins, la semaine dernière ou la semaine d'avant, le nouvel album de Poppy est sorti. Puis, j'étais curieux, je me suis dit, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'écouter ça au moins, parce que c'est quelque chose qui est quand même spécial. Et que ne fut pas mon exemple, que ne fut pas ma surprise de constater que le premier single, Concrete, de Poppy, se tient parfaitement bien dans cet exemple-là de contraste kawaii. Fait que Megan, faut que t'écoutes ça.
Thank you.
Donc, c'était Concrete de l'artiste Poppy. Comment t'as trouvé ça, Megan?
Ben, c'est ça. C'était clair, hein? Mais, c'est
magique.
C'est magique. Non, mais c'est ça, la première fois que ça m'a fait passer, aussitôt que j'ai entendu le petit refrain un peu plus heavy, ça Baby Metal, le groupe coréen, sud-coréen, là, qui fait du metal, mais qui est vraiment cute aussi. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis t'as raison, parce que bon, il doit avoir un nom pour ça. Parce qu'il y a un nom, honnêtement, pour tout. Là,
ah oui, définitivement.
Mais j'ai pas. C'est ça, tu sais, comme toutes les libellés, par exemple, avec Baby Metal, qui a quand même eu un grand succès.
Ça fait quand même plusieurs années de ça, là. C'est pas quelque chose de récent, là.
Mais c'est ça, mais tout le monde dit que c'est de la K-pop et du metal. C'est tout. Il n'y a pas de terme. Tu sais, il y a le Moa Kikuchi, je pense, qui est le Scream and Dance.
OK.
Mais c'est pas...
C'est pas exactement ça.
Exactement. C'est pas une cohabitation de ces deux univers-là. Initialement, quand je pensais à Gretzko, je pensais à Metalocalypse, Deathlock. Mm-hmm. Mais ça fonctionne pas. Deathlock a pas de composante adorable. Il y a peut-être Tuki Wartooth, qui est assez niais pour être considéré adorable, mais je pense que c'est plus un statement sur les drummers ou les bassistes que sur la véritable idée.
Sur le kawaii.
Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que, non, il y a quelque chose, puis là, bon, comme je disais avant de partir en musique, je commence à écouter ça, puis je fais, hey, c'est pas, il y a un courant musical, là.
Oui, non, c'est pas quelque chose de unique, là. Il y a plein d'autres bandes qui font des trucs un peu similaires. Mais c'est intéressant de parler aussi de la toune elle-même, parce que une des composantes kawaii qui est très présente dans Gretzko, c'est parce que le kawaii est très connoté féminin. Oui. Donc la voix aiguë aussi fait partie de ce type de code-là. C'est comme le personnage, c'est un personnage féminin avec la petite voix, puis ça parle japonais parce que c'est japonais. Puis un peu la même chose dans la chanson, il y a les bouts un peu plus rough. Puis là, quand on arrive dans le refrain où elle chante vraiment, vraiment aiguë, puis c'est comme très jovial, puis t'as envie de comme te pencher d'un bord puis de l'autre, puis de faire brasser ton manteau d'hiver.
Yay! <Yeah! rire>
Puis oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait aussi partie de la composante où il y a comme l'agressivité très justement violente entre guillemets, parce que j'ai pas les bons termes pour ça, de la musique metal elle-même qui est très comme justement qui impose aussi par.
Mais je trouve que tu rajoutes quelque chose de vraiment intéressant par rapport à ça, parce que j'avais un peu ignoré la composante féminine, et que t'as dans Aretsuko, puis possiblement dans Poppy, puis possiblement dans plein d'autres trucs, une façon de bien décrire l'écœurement féminin.
Ouais.
Tu sais, cette idée-là d'avoir à respecter des codes, d'être traité et d'être jugé par ce respect des codes-là, que ce soit des codes du kawaii ou les codes esthétiques ou les codes de bonne conduite féminine, et ce trop-plein émotif interne qui finit par sortir dans une espèce d'agressivité. Tu as peut-être là une métaphore.
Ouais. Mais
je suis pas en place pour le...
Pour revenir à Gretzko, t'as comme les trois personnages féminins, en tout cas dans les premiers épisodes, là, t'as comme trois personnages féminins qui sont présentés en premier. T'as Retsuko, qui est comme la girl next door, Pandorou, très average, qui a de la misère à s'affirmer, mais qui est très connotée féminine.
Ouais.
T'as la biche, qui est comme c'est le petit Bambi.
Feneko.
Mais là, ça c'est l'autre.
Ah oui, non, c'est le... ouais, t'as le gars... J'essaie de te le trouver en même temps.
Ouais, c'est ça. Le personnage est connoté ultra féminin. Fait que ça met des petites robes roses, elle a des petits...
Tsunoda. Qui est une gazelle.
Ouais. OK, puis c'est ça. Puis c'est aussi son attitude, c'est d'essayer de séduire puis de un peu têter le boss pour être dans les bonnes grâces. Mais elle utilise ses charmes féminins pour arriver à ça. Mm-hmm. Puis t'as Feneko, qui est un autre personnage féminin, mais qui est connoté très neutre. Fait qu'il n'y a pas de connotation. Je trouve que c'est un personnage qui fait très non-binaire, en fait, dans la manière dont elle se présente. Mm-hmm. Parce que, tu sais pas si tu verrais le dessin, puis tu pourrais pas dire si c'est un personnage féminin ou masculin.
Ouais.
Fait que, tu sais, il y a comme ces trois gradations-là où Feneko est un personnage très étrange qui stalke tout le monde sur les réseaux sociaux, qui fait semblant qu'il, que comme elle s'en fout des gens, mais dans le fond, elle est obsédée par les gens. Puis t'as l'autre qui a été ultra féminin. Puis t'as Retsuko qui est un peu entre les deux. Puis qui essaie de se trouver, j'ai l'impression, là-dedans, entre ces deux extrêmes-là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a ces codes-là qui sont mis de l'avant. Puis qui sont différentes façons de...
D'interagir dans le monde?
Mais de grader le kawaii, si on veut. Si on vient à ton spectre.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, là, t'as l'ultra féminin puis t'as le middle, mais tu vois que l'ultra féminin est plus kawaii que...
Ben, que même, tu vois, c'est même dans leur attitude, je dirais que, comme tu disais, Tsunoda est plus kawaii parce qu'elle est visuellement kawaii, mm-hmm. mais elle est aussi kawaii dans son attitude.
Oui, c'est ça.
Là où, complètement de l'autre côté, Feneko est kawaii. Visuellement,
mais pas dans son attitude.
Totalement désintéressé. Ouais. Donc, c'est un personnage qui devient moins kawaii dans le spectrum.
Mm-hmm.
Ouais, c'est ça. Mais tu vois, effectivement, je ne suis pas trop prête à me prononcer sur ça, mais peut-être que Agretico, Poppy est capable de canaliser certaines. Ou du moins d'être capable de faire la démonstration de certaines agressivités ou de frustrations du monde contemporain.
Mm-hmm. Mais tout en respectant aussi ses codes.
Oui,
au sens
exactement.
Où on réutilise les codes pour exprimer quelque chose de spécifique parce qu'aujourd'hui, on a de la misère à penser à l'extérieur des codes aussi. De se dire, il y a quelque chose de très kawaii, connoté féminin. Techniquement, c'est inoffensif, entre guillemets, ou c'est la connotation féminine classique. Des affaires très sexistes. Mm-hmm. Puis t'as le métal qui est à l'opposé connoté masculin parce que agressif.
Ouais.
Puis là, quand on rencontre ces deux choses-là, ça fait comme une espèce de subversion où le contraste nous force à penser à l'extérieur des codes, mais à partir de l'utilisation des codes.
Oui, et aussi, tu sais, un défait l'autre, mm-hmm. ou du moins un crée une nuance à l'autre.
Mm-hmm.
Le fait que le métal, comme tu disais, est connoté très agressif et masculin. N'a pas techniquement sa place dans un monde kawaii, mais quand il est mis en scène dans Agretico, on comprend pourquoi il est là.
Mm-hmm.
Donc, il devient un artifice, devient un cas de figure pour illustrer une colère bouillonnante. Autant mm-hmm. que, tu sais, dans notre vie, nous n'opérons pas sous les codes kawaii, autant qu'on n'opère pas sous les codes métal.
Non, en effet.
Mais les émotions sont quand même là. Il y a un des trucs par rapport à la neutralisation des émotions dans le kawaii et dans l'extrapolation des émotions dans le métal. Mm-hmm.
Dans l'excès.
Oui, exactement, ouais, qui se balance ou mm-hmm. qui devient un contraste très... j'allais dire criant, là. mais qui deviennent c'est des contrastes explicites par rapport à comment est-ce que certaines personnes peuvent se sentir.
Oui, c'est ça. Puis dans Agretico, ça devient juste un exutoire aussi pour justement... exprimer les frustrations par rapport à ces restrictions qu'elle vit au quotidien aussi.
Mais sur ça, dans notre discussion, tu étais rendu à quelque chose qui est extrêmement perspicace, à mon avis, c'est cette idée-là de la récréation post-capitaliste. Cette idée mm-hmm. qu'elle, si je reprends tes mots, là, mais comme elle a le droit à sa demi-heure dans sa chambre pour crier parce que ça lui permet d'évacuer la pression pour revenir à l'ordre.
C'est un moment de pause pour justement continuer à vivre dans cette société restrictive, là, capitaliste.
C'est ça,
ouais.
Mais qui n'est pas nécessairement meilleur.
C'est pas nécessairement meilleur parce que c'est juste un moment de répit pour... Tu sais, c'est un band-aid sur les symptômes, pas une résolution du problème général qui est systémique puis global.
Ouais.
Fait que c'est ça, ça reste juste un moment de répit, un moment de pause, un moment d'exutoire, mais qui ne règle rien au final aussi.
C'est ça, tu sais, comme actuellement, ce genre de comportement est codifié dans comme la fin de semaine de beuverie.
Ouais.
Essentiellement, le vendredi et le samedi soir, on sort, puis mm-hmm. on se défonce parce qu'on a passé une semaine de marde, c'est ça qu'on dit. Tu sais, j'ai tellement passé une mauvaise semaine que...
Maintenant, il faut que... Je veux peut-être la face.
Ouais, ouais. Donc, c'est pas si éloigné que ça. C'est pas nécessairement un truc de métal. On a intégré certaines de ces pratiques-là dans notre vie tous les jours.
Puis à l'inverse, on parlait du self-care au début d'émission.
Ouais.
C'est un peu la même chose, mais à l'inverse, au sens où tu te défonces pas la face, tu prends un bain, puis tu fais brûler des chandelles. puis on pense que ça va tout régler, mais c'est pas vrai.
Oui.
Tu fais un masque là, pour que ta peau soit hydratée, ça va pas régler tes problèmes de job, là. Ça va juste faire en sorte que tu te sens plus régénéré pour te refaire taper dessus le lendemain matin.
Ouais, ce qui est pas...
C'est pas nécessairement mieux. Là.
Non, c'est ça. T'as comme... T'as, ouais, pas une belle face, pas de ride, là, mais je veux dire, t'as...
En plus, t'as payé 66$ pour ta crème.
Ben, il est là, oui, effectivement, tu sais. Parce que même quand t'es en pause de la société post-capitaliste, ben, t'es encore tellement dedans.
Ben, ouais.
Une autre affaire qui est d'actualité, qui m'a crié au visage encore par rapport à ça, c'est la mise en disposition, la sortie du Goop Project, ou je sais pas trop, le truc de Gwyneth Paltrow, où chaque épisode sur Netflix sert de démonstration de rituels extrêmement riches, ou du moins de rituels disponibles seulement aux personnes extrêmement riches pour être capable d'échapper aux problèmes de la modernité, si on peut dire. Fait qu'essentiellement, fait de l'ayahuasca ou fait du yoga vaginal, ou je connais pas exactement chacun des épisodes.
Achète sa chandelle à 40, je sais plus, 50 piastres.
C'est ça, tu sais, fait que même si... Là où Aretsuko va dans les extrêmes avec le métal, même des choses... Tu sais, on est revenu sur le spectre encore, on est revenu à une pratique kawaii qui vient renforcer une autre pratique kawaii. Moi, j'ai quelque chose par rapport au kawaii depuis le début qui m'irrite, c'est la docilité.
Mm-hmm.
Ça m'irrite que ça soit un respect des codes. J'ai quand même soulevé les trucs tout au long de l'émission. Le fait qu'il n'y a pas de bouche, le fait qu'il n'y a pas de subjectivité, le fait qu'on doit penser à la manière d'agir avant d'agir de la manière que la situation nécessite. Ben, cette docilité-là, je la trouve extrêmement dangereuse. Puis quand on la démontre comme étant... incitative à une soupape aussi agressive que le métal, que de crier tout seul dans une pièce, ben là, je me dis, ben, il y a du mal partout, là.
Il y a du mal partout.
Ben, c'est pas... je veux dire, c'est pas un modèle tenable, mais c'est comme une espèce de...
Non, mais c'est une très juste métaphore pour beaucoup de choses et notamment justement vu que c'est codifié féminin, c'est si on le met en rapport avec l'école féminin classique, ça revient au même parce que la docilité c'était l'apogée de la figure féminine, il fallait qu'elle soit docile et qu'elle attend pas et compagnie là. Fait que c'est sûr que comme d'exprimer ses frustrations à partir de quelque chose qui est codifié comme agressif, c'est aussi une tentative de reprendre le contrôle sur sa vie, mais aussi de subvertir ces codes-là, puis de dire, ben, je suis pas juste un kawaii, je suis pas juste un pandarou kawaii, je suis comme plus que ça. Mais en même temps, j'ai pas d'espace pour l'exprimer, j'ai une demi-heure. Fait que je vais tout exprimer en une demi-heure de la façon la plus rough possible.
Ben, 15 minutes. Oh oui, une demi-heure de. Oui, ce que je pensais, je parlais de l'épisode, comme les épisodes durent 15 minutes, c'est encore moins de place. Oh, mais oui, t'as raison, la planche arrière qui arrive.
Une demi-heure en temps à Gretzko.
Girl!
Ben, ou dans la toilette devant sa pause.
Oui, c'est vrai qu'elle fait ça dans le deuxième épisode, puis que les gens passent devant. Là. Mais tu vas voir l'oiseau puis le gorille, ils sont extraordinaires. Donc, je vais te poser cette question-là, parce que moi, je ne suis pas capable d'y répondre. Est-ce que Aretsuko est constructif ou nocif? Ça fait-tu continuer ces archétypes-là? Ou ça fait démontrer qu'on ne peut
mais
être autre chose?
Je pense que qu'est-ce qui est spécial. Je suis pas... j'ai vraiment pas consommé tout ce qui existe de kawaii ever. Là.
Non, non,
comme
non,
loin
non.
De là, j'ai jamais écouté un épisode d'Hello Kitty dans ma vie. Là.
Ça me surprend qu'il y ait des épisodes de ça.
Full disclosure. Mais j'ai l'impression, en tout cas, mon impression que ça a été avec mon écoute de deux épisodes.
Ben ouais, go for it.
Rappelons-le. C'est pas... Je pense pas que c'est ni constructif, ni contre-productif. C'est plutôt... Je trouve ça intéressant la manière que c'est amené parce que le message est pas subtil. Donc, ça force la réflexion aussi de comme... OK, il y a un contraste étrange entre le kawaii et le métal. Et aussi, c'est saupoudré à profusion. C'est comme on y est allé fort sur l'assaisonnement de commentaires comme « Ah, je pensais que je pouvais faire ça. Ah non, les femmes ont pas le droit de faire ça dans notre compagnie. » Tu sais, c'est même pas subtil. C'est comme « Ah oui, ma job est en train de comme m'enlever toute raison de vivre comme absorbe tout ce qui reste de beau dans mon âme. » Tu sais, c'est même pas... Je pense qu'il y a comme quelque chose qui
libérateur,
qui est tellement in your face que ça te force de te remettre en question aussi.
OK.
Je pense qu'il y a quelque chose dans l'excès et l'exagération des codes qui dépasse. C'est pas dans la subtilité, c'est plutôt dans l'excès, mais l'excès aussi nous force à se remettre en question.
Ouais.
D'une certaine manière.
Dans, devant tant d'évidence.
Non, c'est ouais, ça, c'est on ça. Te le met en face. Là, c'est okay, okay, c'est comme, OK, d'accord, je le vois, je le vois.
Je suis le pantarou.
Alors que, c'est pour venir, parce que tu as mentionné BoJack Horseman
ben oui,
plutôt.
Merci, tu
me vois. C'est ça, là. Une autre émission avec plein d'animaux.
Ben oui.
Mais alors que BoJack le fait dans la complexité et la subtilité.
Oui, mais elle fait quand même avec.
Mais de la même manière.
La ferme des animaux. Fait que t'es toujours en train de faire, ah ouais, le cheval, il est pas content.
Le cheval est triste. Pourquoi le cheval est triste? Why the long face?
Excuse-moi, ce joke-là me fait encore rire.
Ah oui! Mais c'est excellent, là!
Oui, je le sais, mais ça me fait rire. Je suis posé le faire.
Pourquoi le cheval est triste?
Pourquoi le cheval est triste?
On va savoir dans la dernière partie de la dernière saison.
Moi, j'ai écouté aucun épisode de BoJack. C'est pour ça que je renvoie la question vers toi.
Pour plein de raisons. Parce que le cheval est un alcoolique narcissique.
Ouais, ça aide jamais. Ouais, ça aide personne.
Mais c'est ça. Mais BoJack Horseman le fait dans la complexité, la subtilité, tout en abordant des thèmes qui sont très délicats et très déprimants. Mais de façon vraiment plus complexe, mais tout aussi intéressante, à mon avis, que Agrédico peut le faire.
Ben, je pense que ça fonctionne avec l'idée de désarmement. Mm-hmm. C'est comme, je vais écouter des petits bonhommes, que c'est des animaux. Mm-hmm. Oh shit, il y en a un qui est paranoïaque, schizophrène, il y en a un qui est suicidaire, dépressif.
Ouais, c'est comme, ça, tout le monde a des problèmes là-dedans. Puis tout le monde a des problèmes très. Qui parlent de façon très. Violente quasiment.
Okay.
C'est comme ça vient te chercher à des places que tu pensais pas que ça venait te chercher, ça pouvait venir te chercher.
Wow.
Ouais. Mais on a fait un épisode sur BoJack Horseman de deux ans, je pense.
Oui.
Donc je vous invite à aller écouter ça. On a décortiqué le sujet.
Une très bonne connaissance. Moi j'avais complètement oublié.
Oui, on en a fait un d'ailleurs où on décortique beaucoup de ces sujets-là, de tous les sujets que ça aborde. Puis aussi de la manière dont ça l'aborde. Mais je trouve que le mot que tu as employé tantôt est très juste. Parce que si on compare BoJack à Agrédico, les deux, justement, utilisent le désarmement comme façon de nous interpeller et de nous forcer à nous poser des questions sur notre vie puis la société qui dans laquelle on vit. Là.
Bon, ben garde, je vais prendre ce moment-là pour... on va prendre une pause musicale. On va écouter James Kochalka de son excellent disque. James Kochalka. Kochalka Superstar, Our Most Beloved, la pièce Talk to the Wookiee, parce que Kochalka est un BDiste qui a écrit une œuvre qui s'appelle The Cute Manifesto, Craft is the Enemy, qui apporte peut-être quelques pistes de réflexion par rapport à tout ce qu'on a à dire. Fait qu'on va aller écouter Talk to the Wookiee! Talk to the Wookiee, talk to the Wookiee, talk to the Wookiee, talk to her. You've got to talk to the Wookiee, talk to the Wookiee, talk to the Wookiee.
Forget her. She'll never forget you. You'll never forget her. You gotta talk to the Wookiee. Talk to the Wookiee. Talk to the Wookiee. Just talk to her. You gotta talk to the Wookiee. Talk to the Wookiee. Talk to the Wookiee. Just talk to her. The Wookiee is hairy, ugly, and scary, but she is a nice girl. But she will rock your world. You got to talk to the Wookiee. Talk to
j'adore James Kochalka, superstar, qui est l'auteur de Elf. Il a fait American Elf. Il fait des bandes dessinées assez extraordinaires. Toi, comment t'as trouvé ça?
J'adore ça. Je ne connaissais pas seul.
Love it.
I love it.
Ouais, il a fait des choses assez extraordinaires, dont The Cute Manifesto, dans lequel il parle un peu de cette espèce de tendance-là. C'est quand même intéressant. Il dit, comme je le mentionnais, craft is the enemy. Donc, d'essayer de l'artisanat est un ennemi. On l'entend un peu dans la musique. C'est pas un virtuose de son instrument. On le voit dans sa bande dessinée. Il fait des grands traits qui seraient fondamentalement du kawaii, surtout de sa série American Elf. C'est très gros trait. Il va chercher dans... Et son argument par rapport à craft is the enemy, c'est que si on tente, la métaphore qu'il utilise, lui, c'est de faire une chaise. Si on tente de faire une chaise et qu'on lui rajoute des détails extrêmement précis, la fonction de chaise, ben, elle a pas de besoin de tous les détails qu'on y met. Puis lui, bon, il l'applique à son art. Il dit, on n'a pas de besoin de rajouter tant de détails. Quand tu essaies de dire quelque chose, tu es capable de le dire avec très peu. On est rendu un peu là dans l'émission parce que, comme tu disais, moi, c'est drôle, quand je pensais à Gretzko puis BoJack, je pensais à... C'est pas de la thérapie régressive, mais c'est de ramener des adultes à un état... Parce que, bon, on sait qu'écouter la télévision, c'est déjà un état d'hypnose. T'es dans un état d'hypnose avec des figures de ton enfance qui te parlent d'affaires très adultes.
Ouais, mais il y a aussi toute la tendance récente aussi des dessins animés pour adultes qui, je suis d'accord avec ça, 100%, c'est juste une des plus belles choses qui peut être arrivée à la télévision dans les dernières années. Puis pas juste la télé comme un peu à la Family Guy ou American Dad où on faisait des jokes, mais tu sais, c'est vraiment de construire une histoire avec des personnages, un story arc détaillé. Il y a quelque chose de, tu sais, Final Space le fait un peu aussi sur Netflix.
Steven Universe. Mais qui est quand même exciting pour les enfants.
C'est ça, mais il y a beaucoup de shows aussi qui, comme ça, qui vont un peu sur les deux. Steven Universe le fait, Gravity Falls le fait. Ouais. Là, on a eu les Rick and Morty, mais c'est différent. J'ai même pas écouté la
Rick and Morty.
Non, mais je parle pas nécessairement. Mais tu sais, Gravity Falls puis Steven Universe, c'est 100% dans les codes du cute, si on veut. Ils ont toutes des grosses têtes. Puis, il y a ça aussi qui fait qu'on utilise des dessins ou nécessairement quelque chose à un budget plus restreint qu'une série en live action pour justement parler de choses qui sont plus alternatives, des réalités plus alternatives. Steven Universe, même la récente série de She-Ra fait des trucs comme ça aussi, super intéressant. Il y a des choses très intéressantes qui se font de ce côté-là. Fait que je pense qu'il y a cette... Les gens ont pris l'occasion qui était passée, puis je trouve que ça a fait des belles choses. Ouais. Tant mieux. Mais après ça, je sais plus où je m'en allais avec cette idée-là.
Mais ton idée, elle est très belle, puis elle est très pertinente, parce que c'est ça, comme on disait, on est en train... On fait un chantier, là, on fait juste discuter. Pour le Cute Manifesto, en fait, je voulais quand même... Bon, c'est une bande dessinée, donc ça se lit pas nécessairement bien, mais il y a quand même une page complète où il essaye de faire une espèce de synthèse assez rapide. Le début est un peu plus amer. En quoi est-ce qu'il dit, ben, t'as pas besoin de mettre de détails dans ta bande dessinée, raconte ton histoire, fais des gros traits, nanana. C'est pas vrai pour tout le monde, ça, on va s'entendre. Il y a des gens qui préfèrent avoir une construction très précise et tout. Ça, c'est son truc. Mais il y a une page où il parle vraiment de notre rapport au cute, que je trouve vaut la peine d'être mentionné. En fait, il dit que... je le traduis ou je le lis en anglais? Si je le traduis, ça va être malhabile, ça fait que je vais lire en anglais directement. Il dit « pour ces raisons ». Puis là, je commence en français. Je me trouve...
je vais lire en anglais « pour ces raisons ».
Ouais, je m'adore des fois quand je suis pas capable de faire ça en anglais. C'est bon. « For these reasons, we choose cute. We deny the ugliness of the world around us and stand in opposition to it. When we draw, our line will be as supple as the precious spring twig and as resilient as the fat cheeks of an infant. Our art shall remain as pure and innocent as a sleeping babe, and it shall shine with the inquisitive twinkle of his wide waking eyes. We shall not use cuteness to champion crass commercial ventures, for that use merely serves to corrupt and defile twisting cuteness from beauty into ugliness. Nor do we live in a fantasy world where we pretend that suffering does not occur. Rather, we fight for beauty and purity, and we fight to make this world a more joyful place. This is the Cute Manifesto. À ton avis, BoJack, Agretsuko, Poppy, est-ce que ça remplit ces fonctions-là?
Mais c'est sûr que ça remplit pas ces fonctions-là. Par exemple, si je me fie à la dernière ligne, où l'intention, c'est aussi de rendre le monde plus beau, avec le cute.
Ouais.
Puis je pense que le cute est dépassé, ça, ça fait longtemps.
Oui, 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 ça, ça date de 2001, là.
C'est ça, comme on est déjà rendu à quelque chose d'autre.
2005, mais il l'a fait autour de 9/11.
Ouais. Mais c'est ça, mais c'est... Je trouve que je pense que le cute, ou à tout le moins, les choses... C'est compliqué. Je vais y aller d'une certaine manière. BoJack Agretico le fait d'une manière très spécifique, au sens où il nous met, comme on disait avant la chanson, la vérité dans la face, puis nous force à justement reconsidérer ces réalités-là.
Mm-hmm.
Ça, c'est une manière de le faire. C'est comme le cute devient un espèce de vaisseau pour transmettre ces messages-là.
Ouais.
Ou transmettre des messages qui sont un peu plus difficiles à passer à travers des dessins qui sont peut-être plus attrayants ou moins difficiles à regarder à l'œil que genre Game of Thrones.
Ouais, l'emballage est accrocheur.
Ouais, c'est
donc
ça. Surtout, mettons, BoJack ou Tuco and Birdie, la dessinatrice qui a co-créé BoJack aussi,
okay.
qui s'est sortie cet été puis qui a été annulée malheureusement. Oh. Mais c'est ça, les dessins, les couleurs sont vibrantes, ça bouge vite, c'est très attrayant pour l'œil, mais en même temps, ça parle de réalité très adulte et contemporaine.
OK. C'est un pas de plus dans la direction, ou un pas plus profond dans la
oui.
direction de BoJack. Là.
C'est ça. Mais plus d'un point de vue féminin, par exemple. Okay. Parce que c'est deux personnages féminins, puis ça a été créé par des femmes.
Fantastique.
Fait que, il y a ça d'un côté. Puis de l'autre, je pense qu'il y a aussi... parler de bébé Yoda tantôt, mais on va revenir avec ça. Il y a aussi, de l'autre côté, parce que je pense que toute la folie qui est sortie un peu entourant The Mandalorian, mm-hmm. puis l'apparition du visage de The Child sur nos écrans, puis toutes les mèmes qui en sont suivies après, il y a eu un mouvement généralisé de « Ah, le monde est vraiment désagréable à vivre, mais on va tout faire en sorte de protéger cet enfant-là parce qu'il est vraiment adorable, puis il nous fait sentir bien quand on le voit. » Puis c'était beaucoup de gens qui disaient « Ah, j'ai vraiment hâte à vendredi pour voir The Adventures of Baby Yoda and his dad. » Tu sais, c'est comme... c'est ça aussi de Mandalorian. Il y a eu toute une tendance, puis ça arrive quand même assez régulièrement de voir... C'est pour ça qu'on regarde des vidéos de chats puis des vidéos de loutres sur Internet. C'est parce que quand le monde est dark, on a juste besoin de voir une petite vidéo où il y a deux loutres qui se tiennent la main puis qui dorment dans l'eau.
C'est tout ce qu'on a de besoin.
C'est tout ce qu'on a de besoin parce que c'est une pause, c'est un répit de toutes ces réflexions-là que, à l'inverse, Agretico nous met dans la face.
C'est ça. Il est en train d'utiliser les mêmes mécanismes, mm-hmm. mais pour confronter.
Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, pour le cute, de la façon la plus... de base, si mm-hmm. on veut. C'est plus comme il dit à la fin, c'est un répit de la laideur du monde pour essayer de comme... Mais en même temps, est-ce qu'un répit, c'est assez?
Ouais.
Non.
Ben non, exactement. Dans qu'est-ce que tu disais, tu sais, c'est une pause pour...
Pour se redonner l'énergie de continuer.
Pour continuer à recevoir des coups. Exactement.
On va pas détruire la société capitaliste à coups de vidéos de chat, là.
Ben, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je pense que c'est un beau rêve à avoir.
Ben oui, exactement, oui, oui. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on est arrivé un peu à la fin du sujet, je sais pas, parce qu'il y a pas...
Mais pour revenir, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport au manifesto que tu as lu aussi, Craft is the Enemy, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi tout un mouvement en ce moment, surtout sur Internet, avec toutes les... Tu sais, il y a beaucoup de... discussion sur le self-care puis sur la société capitaliste qui émerge, puis la discussion évolue au fil des mois, puis il y a eu aussi toute la discussion sur la productivité puis les hobbies. Okay. Donc on veut adopter des hobbies qui vont être productifs pour essayer de comme on va avoir un hobby, on va avoir quelque chose à faire après le travail, que ce soit aller au karaoké, mais il y en a qui c'est le dessin, la broderie, mm-hmm. ou toutes ces crafts là.
Ouais, exactement.
Qui sont aussi... Puis là, il y a toujours aussi... faut essayer de désapprendre tous les réflexes que la société capitaliste nous inculque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut que ce soit productif. Il faut qu'il y ait un résultat à la fin. Il faut qu'il y ait quelque chose de fini. Puis je trouve que ça résonne beaucoup avec... Ouais. J'ai oublié son nom, mais... Qu'est-ce que James Kochalka dit dans son manifesto, au sens où c'est pas grave si c'est pas fini. C'est pas grave si t'as abandonné ton projet de broderie en plein milieu. L'important, c'est que t'aies apprécié qu'est-ce que t'as fait, mais le problème c'est qu'on n'est plus capable d'apprécier ces moments-là de la même manière qu'on se sent coupable de juste écouter une série télé parce que c'est pas productif. Il y a aussi tout ce cycle de honte puis de culpabilité qui embarque dans tout ça, alors qu'on essaye juste de vivre notre vie.
C'est ça. Puis pour rester aussi dans l'idée que comme les mêmes qu'est-ce qu'on considère comme étant des techniques pour se déconditionner d'environnements abusifs deviennent des environnements abusifs, je pense, tu sais, l'idée, tu dis que l'échappatoire, c'est la télésérie dans laquelle tu peux te sentir coupable de passer du temps dans cette télésérie-là quand en fait tu devrais être en train de faire quelque chose de plus productif. Ben moi, je trouve que la télésérie aussi est rendue dans une obligation un peu abusive.
Ouais, parce qu'il faut tout que t'aies vu.
Ouais, exactement. Puis même qu'il faut que t'aies tout vu pour entretenir des conversations sociales, parce que si tu prends du retard, ben là, il y a d'autres personnes qui vont jaser de quelque chose, toi, tu pourras pas en jaser. On n'est plus nécessairement... Puis bon, évidemment qu'on a une grosse ouverture ici, dans qu'est-ce que tu viens de dire, entre le parcours et la destination, et qu'on n'est pas nécessairement en train de penser au parcours, on est en train de penser au produit fini, puis une fois que le produit est terminé, c'est quoi sa fonction?
On oublie d'apprécier le voyage.
Ouais. Pas pire. Merci énormément pour tout ça. Sérieux, j'ai un très, très beau mot de la fin. Puis,
ben, merci à toi. C'est une belle réflexion. J'espère qu'on va pouvoir continuer ça, peut-être.
On verra.
Peut-être.
Ça nous tombe.
Juste une émission sur les vidéos de chats.
On est-tu obligé? Ben, on l'a fait, les chats, ça a comme...
Okay, les loutres.
Ouais, c'est ça. On va y aller dans les loutres parce que je suis pas allergique. Si vous voulez écouter l'émission de chat, vous allez voir qu'une des grandes raisons pourquoi ça fonctionne, c'est parce que... Donc, on va aller écouter Élégie avec Affect, puis on va remercier Megan de sa pertinence. Merci encore pour
tout. Puis merci à toi pour tes questions et ta pertinence aussi.
Ouais, ça me tentait.